Sevgili Atatürk dostları ve Cumhuriyet sevdalıları, LADAP Atatürk dostları ve Amical Montreux Türkiye derneklerinin Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamasına hoş geldiniz.
Chers amis d'Atatürk et passionnés de la République, bienvenue à la célébration du 100e anniversaire de la République.
C'était très centré sur Atatürk, la personne d'Atatürk. Et je pense que pendant toute mon enfance, j'ai jamais appris les noms d'autres politiciens de l'époque, par exemple. Comme si c'était le seul décideur. C'est un génie, tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. Il a tout prévu, genre, c'était comme si dès qu'il est né, il était attaché à la République, etc., des choses comme ça.
Maintenant, nous vous invitons à observer une minute de silence en mémoire de Mustafa Kemal Atatürk et de ses compagnons d'armes, ainsi que de tous nos martyrs qui ont contribué à l'établissement de notre République.
Mustafa Kemal Atatürk, 1881-1938, Pacha, Gazi et despote éclairé. Alain Lefkovitch, Véronique Samouilov.
À l'heure pile à laquelle Atatürk est décédé, donc on avait vraiment cette sirène qui retentissait, tout le monde s'arrêtait dans les rues. Et moi, dans ma jeunesse, il y avait encore des gens dont la mémoire était vive de ces premières années de la République. Donc il y avait une vraie émotion quand j'étais enfant. On voyait les adultes, les vieilles personnes vraiment pleurer les 10 novembre. Ouais.
29 octobre 2023. Combien était-il en Turquie et ailleurs à célébrer le centenaire de la République, fondée par un homme qui fut d'abord le noble Pacha, puis le Gazi, comprendre le victorieux, avant d'être porté au pinacle en étant désigné comme Atatürk, littéralement le Turc père, Mustafa Kemal. En tout cas, le 10 novembre dernier, à 9h05 précise, la Turquie s'est figée. 86 millions de personnes ont cessé toute activité au son des sirènes qui partout ont retenti.
Je ne sais pas si c'était férié, je ne suis pas sûre. En tout cas, on n'avait pas cours. On avait des spectacles, des célébrations organisées, enfin, des étudiants qui récitent la poésie, des discours des professeurs ou certains étudiants. C'était toujours la même chose. La biographie d'Atatürk, il est né en 1881, sa mère s'appelait Zübeyde, son père s'appelait Ali Rıza, sa sœur s'appelait Makbule. Chaque année, la même chose. Et il était très intelligent à l'école. Il s'appelait Mustafa et son instituteur s'appelait aussi Mustafa. Après, il l'appelait Kemal. Kemal, ça veut dire intelligent.
Plus qu'un rituel ou qu'une cérémonie, c'est un véritable culte posthume, comme une piété qui mobilise les Turcs depuis 85 ans, commémorant ainsi la disparition du guide suprême de cette république, de cette Turquie née des ruines de l'Empire ottoman, qu'il projette dans la modernité du XXe siècle et dont il écrit les premières pages. Mustafa Kemal Atatürk comme un horizon indépassable.
Atatürk, milli mücadelenin bir çılgınlık değil, bir mucize değil, hesap işi olduğunu söylüyor.
Atatürk disait que la lutte nationale n'était pas une folie, pas un miracle, mais une affaire de calcul. En réalité, il avait tout calculé dans les moindres détails. La lutte nationale était avant tout la victoire de la raison.
Il y avait même pendant, je ne sais pas quelles élections, mais il y avait une chanson qu'ils utilisaient beaucoup par CHP, enfin, par le Parti républicain du peuple. Ils parlaient des cheveux blonds, les yeux bleus d'Atatürk, comment il est beau, etc. Même sa beauté physique est un sujet. C'est un bel homme, il est très intelligent dès l'enfance. C'était un génie et ça se voyait qu'il allait faire quelque chose d'incroyable et il l'a fait. C'est ça en fait, le mythe autour d'Atatürk.
C'est quoi cette chanson?
Je ne connais pas le nom de chanson, je m'en souviens des paroles. C'était Sarı Saçlı Mavi Gözlü, Nerede, Nerede. En plus, ça exprime comment il manque, au moins qu'on cherche Atatürk encore aujourd'hui. Sarı saçlı mavi gözlü, quelque chose comme ça. Très kitsch.
The most song I remember, it was for his death day, which is the 10 November came and the leaves
La chanson dont se souvient Sihan Oktay, c'est celle que tous les enfants chantaient le 10 novembre, jour de la mort de Mustafa Kemal Atatürk. Un jour où les feuilles des arbres sont tombées sur le sol, métaphore du Turc perse en allant. Une chanson allégorique. Mais il ne veut pas voir en lui le simple support d'un culte, d'une passion. Ce n'est pas juste une chanson qu'on chantait à l'école. Pour Sihan, Atatürk est une idée, celle de pouvoir vivre dans une société moderne. Il est 100 ans après ce qu'il a voulu créer, non pas uniquement pour la Turquie, mais pour le monde entier. Un monde de paix. Il est toujours vivant par sa pensée.
Adım yazılacak Öcalan Taş'a Elleri göreyim mi? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak Öcalan Taş'a Sizde yaşa
Mustafa Ravalı, AK Parti Belediye Meclis Üyesiyim. Yaşım 48.
Je suis commerçant et membre du conseil municipal. Au nom du parti AKP d'Erdoğan. Atatürk est notre leader fondateur, notre ancêtre, notre tout. Inch'Allah, nous atteindrons ensemble des objectifs plus forts en tant que Turquie au cours de ce siècle turc.
Mustafa Kemal Atatürk, donc il deviendra plus tard Atatürk, fondamentalement c'est un militaire, c'est un officier.
François Georgeon, historien spécialiste de l'Empire ottoman et de la Turquie contemporaine.
C'est extrêmement important parce qu'il a fait des études à l'école de guerre et ensuite à l'école d'état-major. Et c'était probablement l'une des meilleures formations que l'on pouvait avoir dans l'Empire ottoman vers 1900. Lui-même, il est né en 1881, il est né à Salonique, mais d'une famille de la petite bourgeoisie musulmane. Et en fait, l'armée lui a permis aussi une ascension sociale, c'est-à-dire qu'il sort de ce milieu brillamment, c'est-à-dire capitaine d'état-major, et l'armée va lui permettre de se distinguer, notamment lorsque les alliés débarquent aux Dardanelles en 1915. C'est là que se constitue sa figure de général victorieux. Il faut comprendre une chose, c'est que les Dardanelles, c'est une victoire, mais qui suit tellement de défaites qu'elle prend beaucoup d'importance en réalité dans l'opinion publique.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il fréquente donc les jeunes Turcs. C'est qui ces jeunes Turcs? Et est-ce que c'est auprès d'eux qu'il se forge son idéologie politique?
Il partage avec les jeunes Turcs la plupart de leur idéologie, c'est-à-dire d'abord ce sont des patriotes. Ils veulent défendre coûte que coûte ce qui reste de l'Empire. Ensuite, ce sont des gens qui sont attachés à un régime plus libéral que celui du sultan Abdulhamid, qui est un régime autocratique, même disait despotique. Et puis d'autre part, ils sont beaucoup marqués par les courants d'idées qui circulent à cette époque en Occident. Le positivisme, le scientisme, le darwinisme social, si vous voulez, tout ça marque profondément des jeunes Turcs qui sont à la recherche d'un moyen de sauver l'Empire qui est menacé de toutes parts, à la fois par les grandes puissances à l'extérieur et en même temps par les nationalismes intérieurs et notamment dans les Balkans. Donc au départ, c'est un jeune Turc, mais il n'a jamais accédé à un poste important dans le courant des jeunes Turcs, en particulier pour une raison, c'est qu'il était très critique à l'égard de l'engagement de l'Empire aux côtés de l'Allemagne en 1914. Donc c'est pour ça qu'en 1918, général victorieux aux Dardanelles, il n'est pas marqué du label jeune Turc comme les autres. Lui, il a relativement les coudées franches et c'est ça qui va lui permettre donc de prendre la tête de la guerre, ce qu'on appelle le mouvement de résistance d'abord et ensuite la guerre d'indépendance.
En 1918, les vainqueurs, donc les alliés principalement, plus les Grecs, se disent « voilà, le moment est venu d'obtenir ce qu'on voulait depuis des siècles, c'est-à-dire le démembrement de l'Empire ottoman ».
Alexandre Jevakov, auteur de « Kemal Atatürk », père fondateur de la Turquie.
Et Atatürk est un jeune général, s'y oppose. Et donc, il pilote en quelque sorte le mouvement d'indépendance. Et donc, il conduit un combat national qui fait que le traité de Sèvres, qui a été signé par le sultan en août 1920, devient rapidement caduc. Et donc, ce mouvement d'indépendance aboutit au traité de Lausanne en 1923, qui définit la Turquie contemporaine dans les frontières qu'on connaît aujourd'hui.
Le grand moment, ça a été quand il y a eu ce fameux traité de Sèvres qui a dépecé, si vous voulez, l'Empire ottoman.
Ariane Bonzon, journaliste et essayiste, spécialiste de la Turquie.
Les Alliés, donc, se partageant ce qui restait, enfin, l'Empire ottoman, et ne laissant à la Turquie qu'une portion assez congrue, avec ce traité de Sèvres qui n'a jamais été mis en place. Et Atatürk s'est élevé contre ça et a réussi à imposer un autre traité, qui est le traité de Lausanne, et qui est beaucoup plus intéressant pour la Turquie.
Et il va se retrouver au moment de la fin de la guerre, quand l'Empire ottoman perd définitivement la guerre, donc en octobre 1918, il se retrouve à Istanbul. Alors là, il va d'abord essayer d'intriguer dans le milieu d'Istanbul, assez compliqué. Il y a l'occupation alliée, il y a des règlements de compte contre les jeunes turcs, bien sûr, qui ont amené l'Empire au bord du gouffre en s'alliant avec l'Allemagne en 1914, qui ont commis le génocide des Arméniens en 1915. Et finalement, on sait qu'il va essayer, par exemple, de devenir ministre de la guerre dans un gouvernement à cette époque-là, qu'il échoue. Et à ce moment-là, sa carrière bascule, en ce sens qu'il est envoyé par le sultan comme inspecteur de la 3e armée en Anatolie orientale. En fait, il s'agissait en réalité de la démobilisation des troupes ottomanes. Et donc, il est envoyé en mai 1919 et il débarque à Samsun. Il va en bateau d'Istanbul à Samsun et il débarque le 19 mai 1919. C'est une date très importante parce qu'elle est considérée dans la vulgate kémaliste un petit peu comme le point de départ, si vous voulez, de ce qui va être la fortune tout à fait étonnante de cet homme, puisque c'est lui qui va ensuite gagner la guerre d'indépendance, fonder la République et lui donner une orientation moderne, l'orientation moderne qu'on lui connaît.
Pour revenir à l'année 1916, parce que l'année 1916 est une année charnière, décisive pour le devenir d'Atatürk.
Oui, je pense que c'est important. En fait, il y a deux choses.
Emmanuel Çorek, agrégé d'histoire, formé en turc à l'INALCO.
D'abord, le génocide des Arméniens, c'est, selon la périodisation canonique, c'est 1915-1916, la période du climax de l'extermination du génocide des Arméniens. Et en 1915, Mustafa Kemal, il n'est ni à Istanbul, ni en Anatolie orientale en particulier, où se passe l'essentiel des déportations et des tueries, il est sur le front. Et en plus, il remporte une insigne victoire en avril 1915, et Erdogan a soigneusement choisi le 25 avril 2015 pour célébrer le centenaire de la victoire de Gallipoli, qui est le lendemain du 24 avril 2015, qui est le centenaire du génocide des Arméniens. Donc en fait, c'est important parce que ça veut dire qu'il n'est pas associé au génocide des Arméniens. Donc ça ne veut pas dire qu'il a du sang sur les mains, mais ça veut dire qu'il est l'homme parfait pour justement incarner cette innocence de la Turquie républicaine vis-à-vis du passé le plus immédiat et de ses turpitudes. Et donc voilà, il est quand même le témoin direct de ce qui s'est passé et de la disparition massive des populations arméniennes. Donc il est parfaitement au fait de ce qui se passe après la guerre. Il est vraiment un continuateur, à bien des égards, du projet unioniste, sans pouvoir se faire reprocher formellement d'être un des architectes du génocide.
À l'époque, il faut voir que le comité Union et Progrès, donc ce qu'on appelle couramment les jeunes turcs, hein, le comité Union et Progrès est un parti politique qui s'est de plus en plus radicalisé dans les années qui précèdent la guerre.
Boris Adjemian, historien d'origine arménienne, spécialiste des diasporas, en particulier de la diaspora arménienne.
Et ces hommes sont tous des ultranationalistes, on dirait aujourd'hui, et ils sont guidés par une idéologie qui conditionne le salut de l'Empire ottoman et de ce qu'ils conçoivent à l'époque comme la turcité, eh bien uniquement par une opération de nettoyage, de lessivage de la population, de recentrage sur un élément homogène identifiable à cette turcité musulmane. Donc les éléments trop hétérogènes, trop voyants, comme les Grecs, les Arméniens, entrent dans le viseur de cette politique et donc vont être éliminés pour finalement aboutir à ce rêve d'un empire ottoman recentré sur son cœur anatolien, mais renforcé également par cette homogénéisation ethnico-nationale.
Pour moi, il y a un lien très fort entre le culte de Mustafa Kemal et le négationnisme même pas le négationnisme d'État au sens « il n'y a pas eu de génocide des Arméniens ». C'est la mise à distance, hein, l'éloignement du génocide de l'horizon politique turc. Et le mot même de kémalisme a été promu à partir du milieu des années 30 par des officines de propagande turques. C'est aussi un moment où il y a les premières accusations à l'encontre de la Turquie ottomane d'avoir commis un génocide. Et comment les Turcs réagissent? Ils réagissent en créant des officines de propagande à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et ils promeuvent ce mot qui existe depuis le début des années 20, ce mot de kémalisme, pour justement associer la figure de la Turquie nouvelle à cet individu qu'est Mustafa Kemal, qui incarne si bien cette modernité libre de toute culpabilité que le régime promeut depuis le début des années 20, parce qu'il est cette figure de dignité à laquelle se rattacher pour inscrire la Turquie dans une geste positive. Et donc, en fait, pour moi, le culte de Mustafa Kemal et le déni, plus que le négationnisme, et le déni du génocide des Arméniens, ça vient vraiment ensemble. Il n'en demeure pas moins que sous des formes éminemment plus douces, il y a des persécutions continuées vis-à-vis des populations chrétiennes et non musulmanes de manière générale, juives également, qui prolongent et achèvent, ou en tout cas accentuent le processus de purification ethnique dont le projet unioniste, dans sa phase de guerre, est l'expression.
Il y a sans doute une sorte de trauma du bourreau qui est à l'œuvre pour se débarrasser définitivement de cette mémoire sanglante. Il faut sans doute éliminer définitivement les héritiers des rescapés.
La question kurde, c'est quoi? C'est le prolongement de la question arménienne?
Alors, plus globalement, en Turquie, au fil des années, on a perpétué la tradition de l'ennemi intérieur.
Raybon Kevorkian, historien.
Alors, les Kurdes, oui, ça constitue parmi les derniers ennemis intérieurs que la Turquie a attaqué. Pendant des décennies, le mot kurde même était totalement interdit en Turquie. On parlait de Turc des montagnes. Bon, si pendant la première guerre on a éliminé, on va dire, les chrétiens, je voulais pas en donner une connotation religieuse, mais c'est quasiment inévitable en l'occurrence. Là, avec les Kurdes, je pense que les cadres jeunes turcs étaient persuadés qu'ils allaient arriver à les assimiler. Et alors, ils n'ont pas réussi à les assimiler, et même mieux, il y a une dynamique démographique qui fait que le dossier kurde devient un dossier extrêmement chaud, malgré toutes les déportations qui ont été commises, éventuellement d'assimilations qui se sont produites. Ça reste un problème politique majeur en Turquie aujourd'hui.
Te voilà comme un géant parmi nous. Tes yeux si éveillés, si grands ouverts. Tes yeux si éveillés, si clairvoyants. Tu es la démocratie. Tu es la liberté. C'est ainsi qu'on t'a connu. C'est ainsi qu'on t'a compris. Tu es parmi nous, géant.
Et Mustafa Kemal, enfin,
François Georgeon.
Et là, je pense que sa personnalité a joué un rôle très important dans le fait qu'il va un peu brusquer les choses et imposer la République, donc en octobre 1923. Donc, dans une première étape, Mustafa Kemal supprime le sultanat, donc il n'y a plus de sultan à partir de novembre 1922, mais il reste encore un calife. Et très rapidement, Mustafa Kemal va aussi abolir le califat. Alors ça, c'est une nouvelle étape en mars 1924. Donc, finalement, il n'y a plus que la République dont il est le président. Et quel était l'objectif, au fond, qui était poursuivi? C'était quelque chose que poursuivaient depuis longtemps les intellectuels jeunes turcs, les intellectuels ottomans et les intellectuels jeunes turcs. C'était, au fond, faire de la Turquie un pays appartenant à la civilisation. C'est un mot fondamental. En réalité, le modèle, c'était l'Europe occidentale, mais plus particulièrement la France de la Révolution française, celle du radicalisme de la Troisième République, celle qui avait fait la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc, Mustafa Kemal se lance dans une série de réformes. Et c'est pour ça, par exemple, qu'en 1926, la Turquie adopte une série de codes qui sont en fait d'inspiration européenne. Il y a le code civil suisse, par exemple. Le code pénal est italien, c'est-à-dire une législation qui n'a plus rien à faire avec la législation traditionnelle de l'Empire ottoman. Pour vous donner un exemple, donc le code civil, il supprime la polygamie. Il y a aussi dans l'enseignement quelque chose de très important, c'est-à-dire ce qu'on appelle une unification de l'enseignement, parce que entre l'enseignement religieux et l'enseignement laïque, il y avait toutes les écoles des communautés, etc. Et tout cela est unifié en 1924 par la loi d'unification qui avait pour but justement de former une jeunesse moderne, laïque, etc. Les réformes de Mustafa Kemal ont été plus loin, puisqu'elles ont été aussi des réformes dans le domaine culturel. Par exemple, le changement d'alphabet en 1928 est une réforme évidemment très, très importante, très spectaculaire.
Tout le projet de la réforme d'alphabet, il s'articule à un projet plus large qui consiste précisément à mettre fin à cette idée qu'il y a une séparation entre la langue orale, la langue des populations paysannes, turques, qui est beaucoup plus simple.
Emmanuel Tchourek.
Par opposition à cette langue jugée ampoulée des élites ci-devant ottomanes, impériales, devenues républicaines, mais qui continuent de parler cette langue très amphigourique de l'écrit ottoman. Et donc on va vouloir absolument faire de la langue orale le support d'une nouvelle langue. Et donc voilà, on utilise beaucoup l'oralité, on utilise la radio, on diffuse dans ce qu'on appelle les maisons du peuple, qui sont des sections culturelles du Parti unique, qui sont créées à partir de février 32. Et c'est essentiellement, je pense, par ce biais-là, qu'on trouve le moyen de s'adresser à des populations qui n'ont pas forcément, enfin qui n'ont pas accès à l'écrit. Ce changement d'alphabet, il est important parce que il s'inscrit très profondément dans le culte de Mustafa Kemal. C'est-à-dire que c'est l'alphabet du Ghazi. Mustafa Kemal, le victorieux titre qui lui a été attribué en 1921 et qui est un titre au départ islamique, qu'on reconnaît à toute personne qui a remporté une victoire militaire insigne sur le champ de bataille face à des non-musulmans. Il met sa figure partout sur les abécédaires, dans les manuels donc, qui sont distribués largement dans la population pour apprendre le nouvel alphabet. Et c'est vraiment un moment où on voit s'amplifier massivement le culte de la personnalité de Mustafa Kemal. Alors en fait, le culte de Mustafa Kemal, il commence avant le changement d'alphabet. Il commence, on peut vraiment le situer en 1927 avec le fameux discours qu'il prononce en octobre 1927 qui s'appelle le Nutuk. Nutuk, ça veut dire discours. Et en fait, c'est un discours qu'il prononce pendant 5 jours et plus de 30 heures, 35 heures. Donc il fait un discours en fait au Parti républicain du peuple, qui à l'époque est le Parti unique. Et en fait, il délivre la version officielle de l'histoire de la guerre d'indépendance. Et il fait de lui-même le cœur de l'indépendance, du chemin vers l'indépendance de la Turquie nationaliste, indépendance entre guillemets. Et l'idée, c'est qu'il s'attribue en fait le rôle principal, il écarte ce qu'il ne veut pas voir dans le tableau. Et sa première phrase, c'est « Je débarquais à Samsun le 19 mai 1919 ». Donc il crée vraiment un récit qui commence avec lui-même, c'est « La Turquie année zéro ». Et ce récit est très important parce qu'il va figer la manière dont on a écrit l'histoire de la Turquie républicaine depuis cette époque-là.
Alors, à partir de quand on l'appelle Atatürk? Parce que Atatürk, donc le père turc, à partir de quand on lui décerne ce titre?
C'est avec la loi patronymique de 1934.
Zeynep Ertugrul, doctorante à l'EHESS.
Parce que dans l'Empire ottoman, enfin dans le monde musulman de manière générale, je pense, on n'a pas des noms patronymiques comme en Europe. Donc, il passe cette réforme, que chaque citoyen est obligé de choisir un patronyme. Et à ce moment-là, il décide que son patronyme, c'est Atatürk. Et ce qui est intéressant, il ne passe pas son nom à ses enfants adoptés. Donc, il est le seul qui porte ce nom. Donc, en fait, il participe à la construction de son propre culte. Et aussi, par exemple, la construction des statues d'Atatürk dans toutes les villes, c'est aussi pendant qu'il était en vie.
Dans d'autres domaines, quelque chose qui peut paraître choquant aujourd'hui, c'est l'interdiction du fez.
Le fez, donc le chapeau traditionnel turc, souvent rouge.
Et en 1925, il y a eu une loi qui interdisait aux hommes de porter le fez et le turban, et qui donc les obligeait à porter le chapeau. Il faut savoir qu'il y a eu des résistances à cette loi et qu'il y a eu des condamnations à mort. En même temps, il faut comprendre que c'est une sorte de révolution de signes. Hein, et il s'agit de montrer son allégeance à cette civilisation qu'on appelle civilisation internationale, mais qui est en fait la civilisation européenne.
Donc il y a eu la volonté de faire une unité, un peuple. C'était l'État-nation.
Ariane Bonzon.
Il avait parfaitement compris que l'islam était quelque chose d'assez fort, d'assez puissant en Turquie, et qu'il n'allait pas se débarrasser de l'islam, même si il était très critique sur un certain nombre de déviances de l'islam. Donc il a institué une laïcité très particulière, qui n'est pas la séparation de l'Église et de l'État, comme nous ici, en France. C'est plutôt l'État qui contrôle l'islam.
Mustafa Kemal a mis en place, à partir de 1924, en abolissant le califat, une direction d'administration centrale des affaires religieuses qui est rattachée au Premier ministre, et les imams et prédicateurs sont des fonctionnaires.
Ahmet İnsel, économiste, éditeur, journaliste et politologue turc.
Donc du coup, ce n'est pas du tout la séparation de l'Église et de l'État, c'est l'État qui paye les imams et prédicateurs. Et ça, c'est depuis 1924, c'est comme ça. D'abord, il y a l'interdiction aussi de toutes les confréries, toute activité religieuse hors contrôle de la direction des affaires religieuses est interdite. Donc du coup, c'est une volonté de contrôler la pratique d'islam sunnite. Et c'est pas simplement le contrôler, c'est de la transformer afin de créer un islam turc. D'où le changement de l'alphabet. Donc très rapidement, les générations n'ont plus ce contact avec l'alphabet arabe. L'appel à la prière de 1932 à 1950 se fait en turc. Aujourd'hui, c'est revenu en arabe, mais se fait en turc. Donc on voit bien que dans toute cette démarche, il y a une volonté de turciser, de nationaliser l'islam sunnite. À partir du moment où on a aboli le califat, de toute façon, il n'y a pas d'autorité international surplombant les pratiques des musulmans.
Qu'est-ce que c'est que l'Empire ottoman pour les kémalistes? C'est une sorte d'ancien régime, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un ensemble de traditions qui ont bloqué le développement de l'Empire ottoman. Ce sont des superstitions, par exemple. Il y a eu une tendance à considérer que les pratiques religieuses étaient quelque chose de plutôt superstitieuse. Ce qu'il fallait, c'est apporter de la rationalité là-dedans. Il faut ajouter à ces réformes, il faut ajouter celles qui concernaient les femmes, donc qui leur assuraient l'égalité. Sur le plan vestimentaire, il n'y a pas eu de loi les obligeant à adopter le vêtement occidental, mais disons qu'elles ont été fortement encouragées à le porter. Et puis, il y a eu, alors au début des années 30, donc de réformes qui sont importantes, parce que on donnait aux femmes le droit de participer aux élections et ensuite d'être éligibles au Parlement. Donc il y a eu, les premières femmes ont été élues au Parlement en 1934.
La question de la femme, comme on disait à l'époque, l'émancipation de la femme, c'est vraiment peut-être le cœur du projet révolutionnaire turc dans sa dimension sociale, sociétale. C'est-à-dire que c'est un enjeu très important parce que c'est de scolariser les femmes, de rendre possible des modèles visibles dans l'espace public de femmes avocates, de femmes qui sont ingénieurs, chauffeurs de taxi, qui sont même pilotes d'aviation. Et donc voilà, il crée des figures féminines comme ça qui ont vocation en fait à créer des modèles pour un avenir dans lequel la femme turque sera entre guillemets émancipée, mais entre guillemets et pas entre guillemets. Il y a un vrai processus d'émancipation. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en même temps, ça s'inscrit dans un projet qui est aussi profondément lié à une expansion démographique. Donc il y a aussi une assignation de la femme à une forme de maternalisme, de rôle reproducteur. Et l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Il s'agit de pas juger les années 30 et le féminisme d'État, comme on l'a appelé parfois, et qui est en fait une politique qui est une politique sociale générale, à l'aune du féminisme de la fin du XXe siècle, ou encore celui d'aujourd'hui, qui est encore différent.
Beaucoup de dictateurs éclairés ont été aussi éclairés par leur épouse. On pense à la femme de Mao, on pense à la femme de Chiang Kai-shek.
Oui, c'est une question intéressante. Atatürk et les femmes, je ne vais pas me lancer dans ce chapitre. Il s'est marié en 1924 avec une fille de la grande bourgeoisie d'Izmir. Elle était la fille d'un grand entrepreneur latifère, un homme. Et il a donné à ce couple, justement, une visibilité, si vous voulez, ce qui n'est évidemment pas dans les mœurs traditionnelles ottomanes. Donc il insistait pour que sa femme l'accompagne dans la vie publique. Mais ça n'a pas marché en réalité et le divorce a été rapidement prononcé. En réalité, il ne semble pas que les femmes aient joué ce rôle d'égérie dans la vie de Mustafa Kemal.
On a beaucoup parlé de sa femme. C'est qui sa femme qui joue visiblement un rôle important à ses côtés ?
Je pense qu'il n'y a pas d'archives sur sa femme.
Zeynep Ertugrul.
Il y a une historienne en Turquie qui a essayé d'écrire une biographie de sa femme. Il y a des mythes autour de sa femme.
Lesquels ?
Elle était derrière tout. Et en fait, si Atatürk il a décidé de donner le droit de vote aux femmes, c'était parce que sa femme l'influençait, etc. Mais il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de documentation là-dessus, il n'y a pas d'archives privées. C'est un énigme, en fait, sa femme.
La vie privée de Mustafa Kemal n'est pas beaucoup étudié.
Ahmet Insel.
Avant son mariage en 1923, on sait qu'il a eu des amants quand il était attaché militaire en Sofia, par exemple.
Une amante,
oui. À Sofia. Il a eu une autre amante, paraît-il, à Istanbul. Mais malheureusement, il y a eu très rapidement en Turquie, après sa mort, un contrôle total sur les informations biographiques sur Mustafa Kemal. Et il y a eu une hagiographie, mais pas une biographie. Et il y a eu une sorte de glacification de la mémoire de Mustafa Kemal. Je pense que s'il y a aussi une volonté de faire une mythe en tant que plus mythique.
Il y a les femmes en tant qu'objet d'une réflexion politique, et puis il y a Mustafa Kemal et les femmes. Alors, il y a une fascination féminine, spécifiquement féminine, et en particulier de femmes qui vont à Ankara dès 1919 et qui sont fascinées en fait par Mustafa Kemal, par les yeux bleus de Mustafa Kemal. Et la beauté de Mustafa Kemal est quelque chose qui est effectivement très présent et qui fait l'objet d'une sorte de motif littéraire propre dans toute une tradition, en particulier une tradition occidentale.
Je n'oublierai jamais la noblesse et en même temps la simplicité dans sa façon de traiter les gens. Et je me souviendrai toujours du regard de ses yeux bleu-gris clair, aux prunelles transperçantes. Tous ceux qui croisaient ce regard immortel et ses yeux bleus comprenaient tout de suite qu'ils étaient en présence d'un homme exceptionnel. C'était un regard plus profond que le temps. En vérité, je ne trouve pas les mots pour le dire. Regarder ses yeux, c'était comme plonger dans un horizon lointain.
C'était un bel homme. Il avait beaucoup de stature, même s'il n'était pas extrêmement grand. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il était lui-même qui était d'origine modeste, appartenant à vraiment une petite bourgeoisie très modeste de Salonique. En fait, il était extrêmement soucieux de son apparence. Il était toujours impeccable. Même, on pourrait dire coquet, si vous voulez, d'une certaine façon. Et oui, c'est très séduisant. Il en imposait, si vous voulez. Il avait ce côté un petit peu, je dirais, napoléonien. C'est lui qui a l'autorité. Enfin, on a beaucoup de témoignages sur cette question, sur cette dimension. on peut dire, charismatique, si vous voulez. Ça faisait un personnage qui avait, auquel on pouvait difficilement s'opposer.
Ruhum, kalbim, dünyam, her şey. Atatürk ruhumuzda hiçbir zaman ölmeyecek.
Atatürk est mon âme, mon cœur, mon monde, mon tout. Atatürk ne mourra jamais. Il vivra toujours dans nos cœurs, dans notre avenir et auprès de nos enfants.
Alors, il donnait aussi l'image d'un père de famille, puisque alors, il n'a pas eu d'enfant, mais il en a adopté. C'est l'image du père de famille, du bon père de famille Atatürk.
Oui, alors il n'a pas eu d'enfant, mais il s'entourait de jeunes femmes, en particulier, qu'il a adoptées et auxquelles il a signé des missions assez précises. Par exemple, une d'entre elles était un petit peu l'historienne, chargée justement de fabriquer ses thèses historiques. Il se servait aussi, par exemple, des femmes pour comme symbole de la modernité. Par exemple, la première aviatrice turque dont le nom a été donné à un des aéroports d'Istanbul, Sabiha Gökçen, qui était la première aviatrice turque dans les années 30. C'était... Bon, les Turcs ont participé au concours de Miss Monde. Vous voyez, il y avait des choses comme ça dans lesquelles la femme était utilisée. Alors, il y a les gens qui sont malveillants disent qu'ils les utilisaient, si vous voulez, comme symbole de la modernité qu'ils voulaient afficher. Et en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu une véritable promotion des femmes. On a commencé à avoir des femmes juges, il y avait donc des femmes députées, etc. Donc, peu à peu, il y a eu évidemment une promotion sociale. Je dirais qu'elle est, un peu par l'État, si vous voulez, par des fonctions à l'intérieur de la fonction publique, si vous voulez. Peu à peu, les femmes ont pris un poids dans la société turque. Mais c'est resté quand même assez limité. Ne faisons pas d'illusions.
Mustafa Kemal n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui ne veut pas et qui prend vraiment soin à ne pas créer une dynastie. Et quand on lui accorde le patronyme Atatürk, le père des Turcs, jusque-là, il n'y avait pas de patronyme en Turquie, qui fait que, à part Mustafa Kemal, personne ne peut porter ce nom. Mustafa Kemal n'a pas de descendant. Sa sœur est décédée. Il n'y a pas de descendant. Il n'y a personne qui peut dire « Je suis de la lignée de Mustafa Kemal du point de vue généalogique. » Ceci est intéressant parce que, du coup, défendre la figure de Mustafa Kemal, la classification autour de la figure de Mustafa Kemal, permettait de créer aussi, après sa mort, un lieu de pouvoir que personne ne peut occuper. Donc, c'est une sortie d'une longue monarchie ottomane avec une figure qui se substitue à la monarchie ottomane et qui devient la figure tutélaire de la République, une monarque républicaine sans dynastie, et ce lieu de pouvoir était inappropriable par aucun, y compris aujourd'hui Tayyip Erdogan.
Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
I would like to show you two photo of Atatürk, who is the fondateur of modern Turkey of Atatürk, Turkey.
C'est un Oktay, membre de l'ADAP.
I'm carrying this for nearly more than 15 years, maybe in my wallet every day, next to photo of my wife and my brother and family.
Sehan nous montre les deux photos d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Photos qu'il porte toujours sur lui dans son portefeuille depuis plus de 15 ans, juste à côté des photos de sa femme et de la famille de son frère.
Every day, in daily basis, what I'm trying to achieve in my life, in personal life.
C'est comme un membre de sa famille, nous dit-il. Car avec ses photos, ce sont ses idées qu'il transporte tous les jours. Un exemple qu'il s'applique à suivre dans son quotidien, une sorte de code de conduite.
So when I see the photo of him, I am trying to understand the way of his thinking and try to find solution in my life.
En regardant ces photos, il trouve des solutions à tous ces problèmes.
Il y a un côté un peu culte de la personnalité qui est très très fort en Turquie. Hein. D'ailleurs, c'est sidérant, mais vous voyez le drapeau turc, donc ce drapeau rouge avec le croissant et la lune.
Boris Adjemian.
De lune plutôt, et l'étoile au milieu, qui est partout. Et vous avez le portrait d'Atatürk absolument partout, même dans les écoles arméniennes. Il faut qu'il y ait le portrait d'Atatürk, c'est obligatoire.
On est à une époque où on a des dictateurs, Mussolini, Hitler, Staline. Le seul qu'on qualifie de dictateur éclairé, c'est Mustafa Kemal. En quoi il est éclairé et pourquoi cette indulgence vis-à-vis de cet homme qui dénote par rapport à ses confrères, si j'ose dire.
Alors là-dessus, les travaux qui sortent actuellement, enfin ces dernières années, ont plutôt tendance à revenir un peu sur cette image et à montrer que il y a eu des liens, ne serait-ce que de l'admiration parfois de certains dictateurs. Donc on parle de Mussolini, de Hitler, pour ce qui se passait en Turquie, pour le travail fait par Mustafa Kemal, voire même avant lui, pour le travail entre guillemets fait par les jeunes Turcs. Mais je pense que en Europe occidentale, dans les démocraties d'Europe occidentale, on a eu tendance, notamment après 1945, à voir dans Mustafa Kemal un dictateur éclairé parce que la Turquie faisait partie du bloc de l'Ouest dans la période de la guerre froide. C'était un des piliers de l'OTAN contre l'URSS. Mustafa Kemal était... Alors, il n'était plus là déjà, mais enfin, c'était un homme qui avait ancré la Turquie dans ce moule occidental, en voulant occidentaliser, moderniser la Turquie. Et donc ça passait pour quelque chose de tout à fait positif, puisque finalement c'était quelqu'un qui voulait faire en sorte qu'un pays musulman ressemble à l'Europe.
Le régime en Turquie était autoritaire, c'était un régime de parti unique, mais n'était pas une pratique totalitaire au sens ni de Staline, ni de Mussolini, ni de Hitler. C'était plutôt une sorte d'autoritarisme éclairé d'une certaine manière pour ceux qui défendent l'occidentalisation. Il y a eu quand même des éléments de répression, il y a eu des révoltes kurdes qui ont été férocement réprimées. Il y a eu un pogrom énorme contre les Alevis en 1938, qui a commencé en 1937, juste avant la mort de Mustafa Kemal Atatürk. Donc c'était pas un régime tendre. Il y a eu des pogroms contre les Juifs en 1934, etc. Mais il n'y a pas eu cette volonté de mettre en place un État total. Et surtout, il amène une modernisation importante, une dynamique de modernisation importante. La gauche, pendant très longtemps, va avoir une position ambivalente vis-à-vis de Mustafa Kemal. À la fois adhérant totalement à son projet de modernisation, mais subissant en même temps l'autoritarisme du parti unique. Et cette ambivalence de la gauche, par exemple, est très significative dans son regard à Mustafa Kemal, encore aujourd'hui.
Quand je regarde mes sources, je vois personne parler de démocratie. Ils ne parlent pas de démocratie. Et pour eux, la République, c'est l'abolition du sultanat et un gouvernement qui se réclame de la souveraineté nationale. Mais ce n'est pas forcément le pluralisme, débat, délibération, etc. Et ils n'utilisent pas dans les discours de propagande sur lesquels je travaille, ils n'utilisent jamais le terme démocratie. Ils disent, ils n'ont même pas de légitimation de régime de parti unique. C'est comme si ça n'existe pas dans leur monde, en fait, le terme. Et les valeurs associées à la démocratie, séparation de pouvoir, etc. Ils ne font pas partie du discours politique de propagande des années 30.
Alors, comment est justifiée l'absence de pluralisme politique ?
Je pense que ce n'est pas justifié, parce que ça va de soi. Je pense que, vu qu'on n'en a pas vraiment eu avant, c'est difficile. Enfin, ça, t'as pas forcément besoin d'expliquer l'absence de quelque chose qu'on n'a jamais eu. Et je pense qu'il y a très peu de voix qu'on peut entendre en Turquie qui se réclament de démocratie, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels d'opposition qui ont été persécutés, qui sont allés à l'étranger ou qui se sont un peu cachés. Ils n'ont pas vraiment ouvertement dit ce qu'ils pensaient dans les années 30. Par exemple, il y a Sabiha Sartal et
Mehmet Sekeri Asartal, c'est des intellectuels communistes, ils étaient très actifs dans les médias. Ils sont des opposants, mais ils ne s'opposent pas vraiment pendant cette période-là. Ou ils le font de manière tellement subtile qu'on ne peut pas leur attaquer. À la fin, ils finissent par être persécutés aussi, mais...
Donc il y a ce culte en fait d'une modernité qui fait table rase du passé, mais en même temps, les structures sociales profondes perdurent. Donc il ne s'agit pas de juger la révolution turque en disant si elle a réussi à changer ou pas changer. Ce qu'on peut dire, c'est que à la fois elle a transformé profondément la société et en même temps les structures sociales ont demeuré et se sont adaptées à cette transformation créée par le régime républicain.
Mustafa Kemal va rapidement... va laisser les affaires courantes à partir du moment où il va devenir président de la République avec la proclamation de la République en 1923. Il va devenir président de la République. Mais ce n'est pas un régime présidentialiste. C'est un régime parlementaire. Donc il y a le Premier ministre, il va y avoir le gouvernement. Donc du coup, les affaires courantes, c'est le Premier ministre qui gère. Et son Premier ministre, c'est... ce que nous appelons le deuxième homme de la Turquie, İsmet İnönü, et Mustafa Kemal ne s'occupe plus des affaires courantes. Et d'ailleurs, il se plaint à certains moments dans le palais présidentiel à Ankara, à Çankaya, il se plaint autour de lui en disant « Oh, maintenant je suis un peu hors circuit, je m'ennuie, etc. etc. » n'est pas dans la gestion quotidienne des affaires du gouvernement. Il organise des longs repas. Les repas en question sont en même temps des moments de débats politiques, d'échanges, etc.
C'était avec des amis qu'il rassemblait le soir au palais, enfin dans sa maison qu'il occupait à Ankara. En réalité, fondamentalement, c'est un militaire. C'était une ambiance de chambrée, si je peux dire, si vous voulez, où on buvait pas mal, enfin, en particulier du raki. Il était un amateur de raki. C'est là qu'on échangeait des idées, si vous voulez. Et c'était quelque chose, des réunions assez simples, un petit peu improvisées souvent, qui duraient parfois très tard le matin. Donc c'est là qu'au fond se faisaient les échanges d'idées, si vous voulez. Donc c'était dans un univers... qui avait un peu plus à voir avec la chambrée, avec le mess, un mess d'officiers, si vous voulez, même s'il y avait des civils, bien sûr, qui participaient à ces réunions.
Sa consommation d'alcool est importante. Évidemment, c'est ça qui va faire qu'il va décéder relativement jeune, puisqu'il est né en 1881, il est mort en 1938, donc quand il est mort, il n'a même pas 60 ans. Alors, il est mort de cirrhose. Cette partie consommation d'alcool de Mustafa Kemal, évidemment, les conservateurs religieux, les islamistes vont beaucoup, beaucoup utiliser pour délégitimer l'image de Mustafa Kemal. Et par contre, les supporters de Mustafa Kemal, les laïcs, préfèrent ne pas en parler beaucoup. Mais c'est la réalité.
Müjdeler var yurdumun toprağına taşını verdik cumhuriyetin.
Dans les années 90, il y a eu toujours cette commémoration le 10 novembre à 9h05 du matin où toute la Turquie se fige quelques instants pour la mémoire d'Atatürk qui est décédé en 1938. Cette mémoire est partagée pour une très très large partie de la population, est partagée parce que c'est la figure du père fondateur, le père des Turcs. Donc ça, c'est un consensus général. C'est le libérateur. Après, il y a une division qui se met en place le camp laïque occidentaliste, je connais Mustafa Kemal en plus comme le modernisateur de la Turquie. Le camp conservateur reconnaît Mustafa Kemal comme un personnage qui a imposé par une minorité une aliénation culturelle à la Turquie, si vous voulez. Le deuxième Atatürk est un sujet de clivage. Il va y avoir une politique très sournoise, je dirais, très souterraine, de le mettre de plus en plus en sourdine dans les référents culturels, nationaux, historiques de la Turquie. Et il y a une toute petite minorité qui va publiquement, du côté de islamistes particulièrement, conservateurs, ils vont directement attaquer Mustafa Kemal comme un dictateur qui a imposé à la Turquie une aliénation culturelle, agent de l'impérialisme, etc., etc. Mais ça, c'est une toute petite minorité. Il y a une loi en Turquie qui protège la mémoire d'Atatürk, et tenir des propos non respectueux vis-à-vis de Mustafa Kemal, je dis même pas injurieux, non respectueux vis-à-vis de Mustafa Kemal, peut entraîner des poursuites judiciaires. C'est une loi qui a été votée au début des années 50.
Cumhuriyet kutlamaları Cumhuriyet 100. yılına geldiğinde öyle bir coşkuyla kutlanmalıydı ki, yani coşkuyla kutlanır derken...
Le centième anniversaire de notre République aurait dû être célébré avec enthousiasme et nos 100 ans d'expérience auraient dû être révélés ici. Pour le centième anniversaire, un programme d'éducation-formation spécialisée aurait pu être mis en œuvre. Il aurait pu être complété par un monument. Des colloques, des programmes culturels et sociaux sur notre culture républicaine pourraient être organisés de manière intensive chaque semaine, voire presque chaque jour. Autrement dit, de nombreuses manifestations de célébration pourraient être organisées pour sensibiliser sur cette question afin de protéger la République. Malheureusement, une soirée de fête a été organisée avec seulement un spectacle de drones et un feu d'artifice. Alors que moi, je me souviens encore des célébrations de mon enfance.
La figure tutélaire de Mustafa Kemal comme figure fondateur est tellement fort et partagée qu'ils ne peuvent pas, aujourd'hui même au pouvoir, ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Donc du coup, il va y avoir en permanence des débats. Alors, par exemple, le centième anniversaire de la République, contrairement à ce qui était prévu, a été beaucoup moins commémoré avec faste, puisque Tayyip Erdogan a préféré, quelques jours avant, décréter 3 jours de deuil national pour ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et du côté du camp laïque, c'était considéré comme un prétexte pour un peu laisser au second plan les festivités de 100e anniversaire.
Cumhuriyetimizi bize emanet eden kim sayesinde biz bu cumhuriyeti yaşıyoruz dersek Atatürk tabii ki. Bunun en kurucusu, banisi Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk hem yeni bir
Nous avons réalisé cette République grâce à Atatürk. Atatürk, le fondateur de notre République. Mustafa Kemal Atatürk a fait passer notre peuple du statut de sujet à celui d'individu. Et nous a également donné une identité nationale. En ce sens, c'est un génie. Il a permis à un peuple endormi, anesthésié et presque détruit d'émerger en tant que nation turque avec une dignité. C'est pour ça que nous ne pouvons dire qu'Atatürk s'est uniquement contenté d'expulser l'ennemi par une guerre de libération. Il a également donné un nouvel esprit, une nouvelle identité et un sentiment moderne d'appartenance aux personnes sur les territoires libérés.
Qu'est-ce que ça veut dire être kémaliste aujourd'hui ?
On est kémaliste d'abord par opposition au régime actuel. Si on est kémaliste, on n'est pas erdoganiste. Alors, qu'est-ce qui va rester du président Erdogan quand il va mourir ? Je ne suis pas sûre qu'il restera autant de choses quand même que ce qui reste de Kemal Atatürk. Par exemple, l'une des grandes doctrines de Kemal Atatürk, c'était les 6 flèches. il y a six grands principes qui sont au fondement du kémalisme, ce qu'on appelle les six flèches d'Atatürk, que vous voyez d'ailleurs sur le logo du parti d'Atatürk, qui existe toujours, qui est le parti républicain du peuple, hein, qui est le grand parti d'opposition. Et ces six flèches, c'est républicanisme, populisme, laïcisme, révolutionnarisme, nationalisme et étatisme. Eh bien, on peut dire que d'une certaine manière, certaines de ces flèches sont toujours reprises par Erdogan, hein. Le populisme dans son acceptation plutôt positive, le laïcisme, on en a parlé, le révolutionnarisme, Erdogan se veut aussi révolutionnaire. Le nationalisme, on pense qu'un islamiste n'est pas nationaliste, qu'il est islamiste, c'est-à-dire que pour lui, ce qui compte, c'est l'Oumma, la communauté des musulmans à travers le monde. Or, et c'est la spécificité de l'islamisme turc, on est nationaliste avant d'être islamiste en Turquie. Et ça, ça vient de d'Atatürk. L'étatisme, alors ça, il n'y a aucun problème. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui est étatiste, c'est Erdogan, comme l'était Atatürk. Donc on voit que ces six principes, hein, perdurent, alors plus ou moins avec des interprétations un peu différentes, en particulier pour tout ce qui est laïcité, mais ça perdure.
Je me souviens d'un des slogans de la campagne électorale d'Erdogan qui disait « Je suis le nouveau Kemal ». J'arrive, il est arrivé, le nouveau Kemal.
Vous voyez bien, ça, le fait qu'il y ait ce slogan montre bien qu'il est indétrônable. C'est-à-dire qu'il a encore besoin de se situer comme l'héritier, tout en étant en rupture, en fait. Hein. Ou en tout cas, en ne prenant de l'héritage qu'un certain nombre de choses qui lui conviennent et en les réaménageant. Bon, il faut quand même jamais oublier que les années 1923, c'est pas les années 2023. On n'est pas du tout dans le même contexte. Par exemple, c'est que on voit que Erdogan et son pouvoir islamo-nationaliste sont quand même projetés sur un certain nombre de terrains. Ils ont par exemple 50 000 militaires sur une dizaine de terrains à l'extérieur. Ça, c'est pas du tout Atatürk. C'est quand même quelque chose d'important. Alors on est dans une autre époque aussi, mais ce faisant, vous voyez. Le régime d'aujourd'hui s'inscrit plus dans quelque chose qui ressemble à l'expansion ottomane.
Pourquoi avoir créé une association des Amis d'Atatürk en 2018 ?
Alors, nous avons un projet de statue Atatürk à Paris.
Nazmi Çamak, ancien président de l'ADAP, l'association des Amis d'Atatürk à Paris.
Pour promouvoir les idées d'Atatürk, les idées démocratiques, sociales, économiques et laïques. En 2018, nous avons rencontré les dirigeants de la mairie. Donc nous avons proposé cinq lieux, Trocadéro, Champs-Élysées, 18e. Entre-temps, l'équipe dirigeante de la mairie a changé. La nouvelle équipe avec qui on discute, mais pas face à face, mais en écrivant, quoi. Ils ne nous ont pas reçus depuis 2-3 ans. Et la nouvelle équipe qui dit on ne trouve pas vraiment un lieu dédié à ça. Donc on n'a pas vraiment discuté le sujet avec la mairie.
C'était Mustafa Kemal Atatürk, 1881-1938, Pacha, Gazi et despote éclairé. Avec Emmanuel Tchourek, Alexandre Jevakov, Ahmed Insel, Ariane Bonzon, Boris Adjemian, Sehan Oktay, François Georgeon, Raymond Kevorkian, Sedef Esser, Zeynep Ertugrul et Nazmi Çamak. Prise de son Florent Bujon et Mélodie Esman. Prise de son à Istanbul, Séville de Gruguven. Mixage Jean-Baptiste et Tcheparebord. Merci à Marie Chartron, Stéphane et Rafi Zekian et Ilana Navarro pour leur aide précieuse ainsi qu'à Pierre Pinault de l'INA. Attaché de production Sylvia Favre. Coordination Christine Bernard. Un documentaire d'Alain Lefkovitch réalisé par Véronique Samouilov.